Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, Le Monde Aujourd'hui, édition du lundi 15 février 2021. Bonjour, bienvenue. 5 pays du Sahel et la France se réunissent en sommet aujourd'hui pour faire le point sur la lutte anti-djihadiste dans la région, où Paris voudrait voir ses alliés assumer le relais militaire, mais aussi politique, pour réduire un engagement vieux de 8 ans. Les présidents du G5 Sahel, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad, sont annoncés présents à N'Djamena, la capitale tchadienne. Le président français Emmanuel Macron participera pour sa part en visioconférence. Ce sommet marquera la prise de commande du G5 Sahel par le Tchad, 2 mois avant la présidentielle, dont le président tchadien Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans, est le grand favori. La Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala devrait, sauf coup de théâtre, être nommée aujourd'hui première femme et première africaine à l'Organisation mondiale du commerce, OMC. Dr Okonjo-Iweala est la seule candidate encore en lice grâce à un large consensus et notamment le soutien de l'Union africaine, mais aussi de l'Union européenne et désormais appuyée par les États-Unis. L'Organisation de défense des droits humains Amnesty International a condamné dimanche les attaques dirigées contre des commerçants originaires du nord du Nigeria sur un marché d'Ibadan, une ville du sud du pays, qui ont fait plusieurs morts vendredi. Des médias nigériens affirment qu'au moins 6 personnes sont mortes dans ces affrontements intercommunautaires. Face à ces attaques, les gouverneurs des États du nord ont mis en garde mardi contre de possibles représailles de personnes originaires du Sud installées dans le Nord. Au moins 11 civils et 3 soldats ont été tués dimanche dans une attaque attribuée au groupe armé des forces démocratiques alliées, les ADF, en Ituri. C'est dans le nord-est de la République démocratique du Congo, selon l'armée, qui affirme avoir tué 4 assaillants. Les combattants ADF opèrent désormais en petits groupes mobiles, ont affirmé des experts des Nations Unies dans un rapport adressé au Conseil de sécurité en décembre. Le Rwanda a commencé à vacciner des groupes à haut risque d'infection au COVID-19, tels que les travailleurs médicaux de première ligne, avec des doses limitées de vaccins. Le Rwanda est le premier pays à entamer la vaccination en Afrique de l'Est. Les vaccinations ont commencé avec des vaccins approuvés par l'OMS, acquis via des partenariats internationaux, a indiqué dimanche le ministère de la Santé rwandaise dans un communiqué. Le gouvernement algérien, lui, a décidé de rouvrir dimanche toutes les mosquées du pays et d'autoriser la reprise des activités hôtelières dans le cadre d'un nouvel allègement des mesures de restriction anti-coronavirus face à une baisse des contaminations. Ces décisions s'appliquent à partir d'aujourd'hui lundi. Néanmoins, tous les rassemblements tels que les mariages, circoncisions, mais aussi les manifestations politiques demeurent interdits. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté dimanche à Port-au-Prince pour dénoncer les velléités de nouvelles dictatures, car selon eux, le pouvoir en place à Haïti et l'appui de la communauté internationale au président Jovenel Moïse. Les accusations de tentative de coup d'État portées le week-end dernier par les autorités ont été accueillies avec scepticisme par l'opposition et la société civile qui dénoncent des arrestations politiques et illégales. Des manifestants ont commencé à descendre aujourd'hui dans les rues en Birmanie malgré le déploiement de troupes et l'intensification de la répression par la junte militaire. Dimanche, les forces de l'ordre avaient tiré sur des manifestants tandis que des militaires se déployaient et qu'Internet était presque totalement coupé, faisant craindre une répression imminente du mouvement de protestation contre le coup d'État. Et puis, le président américain Joe Biden va organiser vendredi son premier événement avec des dirigeants du G7, une réunion virtuelle pour discuter de la pandémie de coronavirus et de l'économie mondiale, a fait savoir dimanche la Maison-Blanche. Il s'agira pour Joe Biden d'une opportunité pour discuter de projets pour vaincre la pandémie de COVID-19 et reconstruire l'économie mondiale, a déclaré la présidence américaine dans un communiqué. VOA Afrique Info, en ligne de mire dans ce journal, Ebola de retour en Afrique de l'Ouest. Après 5 ans d'absence, les nouveaux cas, 7 dont 3 mortels, sont apparus dans la région de Guinée forestière, près du Libéria. République démocratique du Congo, 2 sites militaires attaqués dimanche à Lubumbashi. Ici aux États-Unis, Joe Biden appelle à une réforme immédiate des ventes d'armes à feu. Jean-Roger Billon, on se retrouve dans un instant.
La suite de nos informations en ce lundi 15 février. En Guinée, l'apparition de nouveaux cas d'Ebola préoccupe les autorités. Une réunion d'urgence a eu lieu ce dimanche à Conakry, au cours de laquelle il a été décidé d'envoyer 3 missions d'enquête dans le sud du pays où le virus a fait 3 morts. On fait le point avec notre correspondant en Guinée, Zakaria Camara.
Les autorités guinéennes ont envisagé des mesures pour faire face à la résurgence de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Des mesures prises au cours d'une réunion d'urgence à Conakry, au nombre desquelles l'isolement de tous les cas suspects à zéro courée à Conakry, l'acquisition de vaccins contre Ebola auprès de l'Organisation mondiale de la santé, ou encore l'ouverture d'un centre de traitement à Gweke, situé à 45 km de zéro courée dans le sud du pays, où l'on a signalé 8 cas de diarrhée et vomissements suite à l'enterrement d'une infirmière décédée le 27 janvier dernier. Après analyse des échantillons, le gouvernement guinéen déclare une épidémie de maladie à virus Ebola dans la préfecture de zéro courée. On dénombre 7 cas positifs, dont 3 décès. Tous ont participé à l'enterrement de l'infirmière. Entre 2013 et fin 2015, l'épidémie d'Ebola avait fait en Guinée un peu plus de 2500 morts. L'apparition de nouveaux cas intervient alors que la Guinée, à l'instar du reste du monde, fait face à l'épidémie de Covid qui a fait plus de 14 000 cas positifs et 84 décès hospitalisés. Conakry, Zakaria Camara pour VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, des miliciens Maïmaï, Bakata, Katanga ont attaqué simultanément dimanche matin le camp militaire de Kibembe et un dépôt d'armes au centre-ville de Lubumbashi, dans le sud-est du pays. Le bilan provisoire de l'attaque serait de plus d'une dizaine de morts. Michel Joseph nous en dit plus.
Des crépitements de balles ont réveillé très tôt dimanche matin les populations dans plusieurs quartiers de Lubumbashi, la deuxième plus grande ville de la RDC. 11 personnes ont été tuées d'après un bilan de l'attaque fournie à l'AFP par le maire Ghislain Robert Lubaba Boulouma. Les cibles visées étaient les camps militaires de Kimbembe et de Kibati. Les assaillants ont été identifiés comme des éléments Bakata Katanga, une milice indépendantiste. Lubumbashi est la capitale de la riche région minière du Katanga. L'ancien président Joseph Kabila, originaire de la région, s'y est replié depuis mi-décembre après que son successeur Félix Tshisekedi a mis fin à leur coalition au sommet de l'État et s'est emparé de tous les leviers du pouvoir. Des incursions d'hommes armés conduites par des milices indépendantistes surviennent régulièrement à Lubumbashi. Lors de la précédente attaque, le 26 septembre 2020, 2 policiers et un soldat avaient été tués.
Ici aux États-Unis, le président Joe Biden a appelé hier dimanche le Congrès à agir maintenant pour limiter la circulation des armes à feu, 3 ans après la tuerie au lycée de Parkland, en Floride. Claire Morin-Gibourg.
J'appelle aujourd'hui le Congrès à promulguer des réformes de bon sens concernant les armes, a dit Joe Biden. Le 14 février 2018, 14 lycéens et 3 encadrants avaient été tués par un ancien élève qui avait pu se procurer légalement un fusil d'assaut semi-automatique, malgré des antécédents psychiatriques. Le président Biden demande d'imposer la vérification des antécédents des acheteurs pour toutes les ventes d'armes, d'interdire les fusils d'assaut et les chargeurs à haute capacité. Nous allons promulguer ces lois et d'autres lois qui sauveront des vies, a immédiatement indiqué Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants. Les démocrates détiennent désormais également une très courte majorité au Sénat, mais ils auront besoin d'au moins 10 républicains pour faire adopter ces lois, ce qui semble actuellement difficile. En dépit d'une mobilisation inédite des lycéens de Parkland pour un contrôle plus sévère des ventes d'armes, le président Donald Trump avait alors refusé d'envisager l'interdiction des fusils d'assaut.
C'est à présent l'heure de la Minute Éco, présentée par John Lindon.
En République démocratique du Congo, Equity Bank commerciale du Congo a lancé ses activités jeudi avec un bilan de 2,7 milliards de dollars et une capacité financière de prêter jusqu'à 40 millions de dollars à un seul client, d'après ses responsables. La nouvelle entité est le fruit de la fusion entre Equity Bank Congo et la Banque commerciale du Congo. Au Cameroun, l'État recherche 350 milliards de francs CFA pour financer une partie de son budget 2021, évalué à un peu plus de 4 865 milliards de francs CFA. En plus de l'émission des titres publics, l'État entend recourir au tirage pré-projet à travers des financements bancaires et les appuis budgétaires pour un montant de 1134,9 milliards de francs CFA. Les fonds recherchés devraient permettre de réduire une partie du déficit budgétaire qui est évalué à 1484 milliards de francs CFA. Kenya Airways entend diversifier ses activités en se lançant aussi sur le transport des vaccins anti-Covid. La compagnie espère s'imposer comme un transporteur incontournable pour l'Afrique en s'appuyant sur son savoir-faire dans le transport de roses fraîches vers l'Europe. La compagnie kenyane veut même ouvrir un entrepôt de stockage dédié aux vaccins.
Et maintenant, la page des sports avec Élisée Oumpatine. Bonjour Élisée.
Bonjour Jean-Roger et bonjour à tous.
Football, après le CHAN, place maintenant aux compétitions interclubs de la CAF, en Ligue des champions en contre-performance des deux clubs congolais.
Oui, et dans le groupe A, en attendant le match Al Ahly du Caire, El Merriet du Soudan, l'ASV Club de Kinshasa s'est incliné 0-1 à domicile face à Simba, champion de Tanzanie. Le TP Mazembe est lui aussi resté muet à Lumbashi face au club algérien du CR Belouizdad, mais a au moins réussi à garder sa cage inviolée, score 0-0. On écoute justement son entraîneur Pamphile Mihayo.
Comme tout le monde a vu, ce qui n'a pas marché, c'est qu'on n'a pas concrétisé les occasions qu'on a eues. Parce que si on avait quand même concrétisé les quelques occasions qu'on a eues, on pouvait sortir de ce match avec les 3 points. Sans toutefois minimiser l'adversaire. Il y avait un adversaire qui a fait son boulot sur le plan tactique et ils étaient présents. Ils ont fait le travail défensif, ils ont couru un peu de partout pour pouvoir protéger le bloc et pouvoir ne fût-ce qu'arracher ce match qui vient d'arracher bravo à vos coachs, donc, parce que c'est pas facile d'arracher un point à l'extérieur quand on joue, mais bon, le championnat est encore long, donc il y a encore de quoi jouer. Il nous reste tous 5 matchs à jouer, donc on y croit encore.
À l'instant, Pamphile Mihayo, l'entraîneur des Corbeaux de Lumbashi au micro de Valdo Simbo Nyamba Nyamba. Dans ce groupe B, ce sont les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns qui prennent la tête au classement suite à leur victoire de 2-0 devant les Soudanais d'Al Hilal.
Contrairement aux deux formations congolaises, les Guinéens du Oroya AC ont parfaitement débuté leur compétition dans le groupe C.
Tout à fait, puisque vainqueur des Angolais du Petro Atlético de Luanda à domicile 2-0. Une victoire obtenue sans trembler pour le club de Matam, qui est seul leader du groupe en attendant le match Wydad de Casablanca, Kaizer Chiefs d'Afrique du Sud, reprogrammé sur un terrain neutre par la CAF. Et puis, dans la poule D, l'Espérance de Tunis, vainqueur 1-0 des Sénégalais de Tanguet, est classé leader suite au match nul 0-0 entre le Zamalek du Caire et le Mouloudia d'Alger.
Élisée, on jouait aussi hier le tour de cadrage, aller en Coupe de la CAF, ultime étape avant de retrouver la phase de poule.
Exactement, Jean-Roger Bion. Et le Daring Club Motéba Pembe arrache un nul précieux face au Libyen d'Al Ahly de Benghazi. Par contre, les Égyptiens du Pyramide ont presque validé leur qualification en allant battre 2-0 les Ivoiriens de Racing Club à Abidjan. Pour le reste, Enima est sorti vainqueur 1-0 du duel nigérien contre River United. Victoire 2-1 du stade malien face aux Algériens de la JS Kabylie. Et puis le Raja de Casablanca s'est contenté d'une courte victoire devant l'Union Sportive de Monastir au cours d'un match où les Tunisiens ont vendu chèrement leur peau.
La suite des résultats avec la grosse performance réalisée par le Jaraf de Dakar.
Les Sénégalais ont ramené une précieuse victoire 1-0 de leur déplacement d'Araré contre Platinum. Victoire en déplacement aussi des Sud-Africains d'Orlando Pirates 3-0 sur le terrain des Botswanais de Joanneng Galaxy, des Algériens de l'entente du Sétif 2-1 à Koumassi devant les Ghanéens d'Asanti Kotoko, tout comme Coton Sport de Garoua qui a réussi l'essentiel à Niamey face à l'AS Sony Depot. Et puis, coup de victoire 1-0 à domicile des Gabonais de Bouenguidi Sport face au Burkinabé de Salitas. Les matchs retour auront lieu dimanche prochain.
Football toujours, la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans a démarré hier en Mauritanie avec le match d'ouverture entre le pays hôte et le Cameroun.
Oui, et occasion pour le Mauritanien Ahmed Yahia de commencer sa campagne pour la présidence de la CAFOR sur le terrain. Belle entame pour le Cameroun qui s'impose devant la Mauritanie bousculée. Les Lionceaux indomptables ont assuré le strict minimum grâce à Sondé Junior à la 41e minute de jeu. Le second match de ce groupe A se joue ce lundi et l'Ouganda fera face au Mozambique. Le groupe B aussi entre en compétition aujourd'hui avec deux matchs, Burkina Faso, Tunisie et Namibie-Centrafrique.
Page des sports signée Élisée Oumpati. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. L'ancien président américain Donald Trump a été acquitté samedi. Il devient ainsi le seul président à avoir été mis en accusation deux fois, puis acquitté deux fois. Maintenant, républicains et démocrates sont confrontés à des défis distincts dans l'ère post-Trump. Mike O'Sullivan fait le point. Le récit est de Michel Joseph.
Donald Trump a été déclaré non coupable d'incitation à la violence contre le Congrès. Ses partisans surchauffés ont pris d'assaut le Capitole le 6 janvier sur la base d'une fausse accusation de Trump disant que Joe Biden lui avait volé sa victoire. Les démocrates ont déclaré que la responsabilité de Trump dans cette attaque est claire. 7 sénateurs républicains sont d'accord avec eux et ont voté la condamnation. Par contre, d'autres républicains ont dit qu'il n'y avait pas assez de preuves. Un sondage Reuters, Ipso, montre que 71% des Américains et la moitié des républicains pensent que Trump est en partie responsable de l'émeute. Cet homme, surnommé Zach, était en faveur de la condamnation de Trump.
Tout ce qu'il a fait, c'est essayer de ruiner le système électoral très fragile et qui a déjà été très critiqué.
Pour Shell Reinish, un partisan de Trump, ce procès devant le Sénat était une perte de temps.
La destitution, c'est de renvoyer un président qui est en exercice. Et lui, il n'est plus à ses postes.
Des sondages montrent que la plupart des républicains pensent comme Trump. Barbara Perry est analyste à l'Université de Virginie.
En fait, 70% des républicains pensent que Joe Biden a été illégalement élu président.
Quelque chose que les dirigeants républicains rejettent, mais pour l'analyste Barbara Perry, les partisans de Trump ont obtenu les politiques qu'ils voulaient.
Obtenu des impôts moins élevés, moins de réglementation et des magistrats conservateurs à la Cour suprême.
Une politique étrangère agressive et une ligne dure sur les questions frontalières. Le président Joe Biden et les démocrates du Congrès seront confrontés à de nouveaux défis. L'analyste Elaine Carmack de la Brookings Institute.
Les démocrates doivent nous sortir du Covid et remettre les économie sur les rails. Ils ont un travail assez simple à faire. Et quelles que soient les divisions idéologiques qui existent au sein du parti, ils sont muets comparés au parti républicain.
Trump est aimé par sa base, mais vilipendé par certains républicains et toléré par d'autres. Elaine Carmack et ses collègues de la Brookings Institute voient une série d'options possibles pour l'avenir politique de Donald Trump.
It goes all the way from
cela peut aller de diriger le Parti républicain et être réélu à la présidence en 2024, aller en prison ou prendre le chemin de l'exil en Russie, en Arabie Saoudite ou ailleurs.
Exonéré au Congrès, Trump reste cependant une cible pour de nombreux procureurs qui s'intéressent à ses relations d'affaires. Pour Elaine Carmack, Trump, l'homme, a défié les attentes et aussi est peut-être le président le moins conventionnel de toute l'histoire des États-Unis.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Les dirigeants des pays du G5 Sahel se réunissent en sommet à N'Djamena aujourd'hui et demain. Ils vont se focaliser sur un possible redimensionnement de Barkhane et sur les politiques régionales. Pour en parler, Eric Manirakiza, adjoint à Abidjan, l'écrivain et chercheur sur le terrorisme dans le Sahel, Sedi Kaba.
Aujourd'hui, il est évident que les considérations de politique intérieure française, comme vous savez, la crise du Covid-19 a complètement affecté les finances publiques de la France. La France a dû faire des efforts exceptionnels pour soutenir les différents secteurs économiques qui ont perdu beaucoup du fait de la crise économique. Donc, la France ne peut pas continuer à financer une opération militaire à des milliers de kilomètres qui coûte entre 900 millions d'euros et 1 milliard par an. Ça, c'est une première donnée. La deuxième donnée est d'ordre politique. Nous allons vers des élections dans moins d'un an en France. Il y a le président Macron qui est candidat à sa succession. Ne peut pas prendre le risque politique de garder le Barkhane dans sa forme actuelle parce que, comme vous savez, depuis 2013, il y a aujourd'hui 50 militaires français qui ont été tués au Sahel et ça peut créer une perte de popularité auprès de l'opinion française. D'ailleurs, je signale qu'il y a un sondage qui a été fait et qui prouve que aujourd'hui la majorité des Français ne soutiennent pas l'opération Barkhane. Donc, il y a ces considérations de politique intérieure qui ont convaincu le président Macron de repenser l'opération Barkhane. Le sommet de N'Djamena qui va se tenir la semaine prochaine, le 15 février, va être l'occasion pour que la France annonce sans doute les retraits d'une partie de son contingent. J'imagine qu'elle ne va pas retirer tous ces soldats, mais elle va retirer une partie de son contingent. Et aujourd'hui, toute l'inconnu, c'est comment on va articuler le départ des soldats français, comment faire en sorte que le terrain qui va être abandonné par les soldats français ne soit pas récupéré par les djihadistes. Et c'est tout l'intérêt du sommet qui va avoir lieu.
Vous parliez de l'opinion française qui n'est pas favorable à la présence française dans le Sahel. Il y a aussi l'opinion public des pays du Sahel.
Tout à fait, c'est exact. Et il y a même eu des manifestations contre la présence française dans des pays comme le Niger, dans des pays comme le Mali. Le drapeau français a même été brûlé au Mali parce que les gens ne voyaient pas la valeur ajoutée. Et les gens qui, comment dire, provoquaient leur irritation, c'était le fait qu'ils ne voyaient pas la valeur ajoutée de Barkhane. Et il y a Barkhane et on continue à tuer des soldats maliens, des soldats nigériens. Vous vous souvenez de la perte qu'a subi l'armée nigérienne à Shinagoder et Inates en novembre et en décembre 2019. Ça a provoqué levée de boucliers, un bras-le-bas de combat dans l'opinion publique de ces pays-là parce qu'ils ne voyaient pas l'utilité de la présence de Barkhane. Mais depuis, avec le changement de stratégie, les armées ont subi moins de pertes. On peut dire que le rejet total de Barkhane a évolué, mais il y a chance des opinions publiques et même dans une partie de l'élite politique et de la société civile, la conviction que Barkhane ne va pas rester éternellement. Donc, il faut préparer les armées nationales à prendre le relais de Barkhane et que la solution sécuritaire au Sahel passe par la montée en puissance des forces africaines, mais aussi par une approche holistique qui intègre le militaire, le développement, le social, la bonne gouvernance, la justice, la fin de l'impunité, tous ces éléments mis ensemble. Et c'est ça qui va être la solution. Ce n'est pas la présence ou non de Barkhane. Même si Barkhane part et que les autres montent en puissance, si on ne sort pas du paradigme de tout sécuritaire et militaire, on ne trouvera pas de solution au Sahel.
C'était Sedi Kaba, écrivain et chercheur sur le terrorisme dans le Sahel.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Direction la République démocratique du Congo, pour voir comment a été marquée la journée mondiale de la radio, célébrée comme chaque année le 13 février. Durant le confinement en RDC, la radio s'est révélée particulièrement utile pour l'éducation à distance. Selon l'UNICEF, plus de 9 millions d'enfants ont bénéficié des contenus éducatifs relayés par les ondes. Je ne vous en dis pas plus, suivant le reportage de Charlie Kasereka, notre correspondant à Goma.
Elles sont religieuses, commerciales et généralistes et ces radios qui arrosent la RDC. Au Nord Kivu, elles sont des centaines, dont une soixantaine de radios communautaires. Les rapports ont été d'une grande valeur dans les contextes sécuritaires, mais aussi sanitaires pendant la période des pandémies d'Ebola et celle de Covid-19. Jacques Vagueni, coordonnateur d'une soixantaine de radios, est réuni dans les collectifs des radios communautaires du Nord Kivu, Korakon.
Il faut dire que tout ce travail des radios s'est déroulé dans un contexte très complexe. Bon, ça parce que il y a eu beaucoup de journalistes qui ont subi des intimidations. Il y a eu aussi des journalistes qui sont morts. Un autre défi à milieu rural, l'électricité. Et nous encourageons par exemple à s'adapter.
S'adapter à la nouvelle technologie, oui, mais le contenu de la programmation doit être enrichi, pense Edgar Maungu, chercheur en communication.
Durant 100 ans, la radio a montré ses prouesses et a traversé beaucoup de défis au niveau technologique et autres. Nombreux de nos auditeurs et auditrices ont confiance à cet outil. Il convient maintenant aux utilisateurs de mieux soigner les contenus. La radio restera professionnelle et l'outil qui va résister dans les temps, c'est question de les contextualiser.
Contextualiser les contenus de la radio, c'est ce que l'UNICEF RDC a fait dans un partenariat avec plus de 90 radios sur l'ensemble du territoire national. Les Fonds des Nations Unies pour l'enfance a financé une programmation spéciale d'enseignement scolaire via la radio pendant la période de confinement. Plus de 9 millions d'enfants ont bénéficié de ces enseignements en milieu rural comme en milieu urbain. Constance Anganya, chargée de l'éducation UNICEF Nord Kivu.
Et donc la radio a été une alternative pour permettre aux enfants d'accéder à l'éducation. Et on a distribué autour de 6788 radios à énergie solaire, ce qui a permis évidemment à tous ces enfants vulnérables d'accéder à l'éducation à distance. On a contracté avec Nantes une station radio. UNICEF a pu toucher plus de 9 millions d'enfants et adolescents à travers le pays. Toutefois, il faut dire que l'enseignement à distance ne permet pas de couvrir tous les enfants dans le pays, et surtout dans les zones reculées. Et la revêtue des écoles reste vraiment l'idéal pour permettre l'équité et l'éducation pour tous.
En République démocratique du Congo, la radio reste l'un des canaux de diffusion d'informations les plus fiables, considérés par certains comme efficaces contre les rumeurs souvent répandues par les médias en ligne et les réseaux sociaux. Charlie Kasereka pour VOA Afrique Goma.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Hier, 14 février, c'était la Saint-Valentin, la fête des amoureux. À cette occasion, notre correspondante à Lomé a recueilli l'avis de jeunes Togolais sur les relations amoureuses en ligne ou à distance. Kayla Osson.
Les relations à distance ou virtuelles se sont imposées dans le monde d'abord à cause de la migration et ensuite renforcées par les sites de rencontres et les réseaux sociaux. Comme deux faces d'une même pièce, ils sont nombreux les Togolais qui sont partagés sur les relations à distance pour diverses raisons.
Une relation à distance sur Internet, c'est bien parce qu'il y a des trucs que vous pouvez se dire en ligne.
Vincent Aziaba est un adepte de relations en ligne.
Moi, je suis très timide. Donc, si je vois ma meuf, on ne peut pas se dire des trucs quand on se regarde dans les yeux. Donc, je peux faire ça en ligne, quoi.
Eugénie Kokoroko, étudiante en deuxième année d'anglais à l'Université de Lomé, estime qu'une bonne communication est la clé du succès d'une relation virtuelle.
Moi, je peux avoir une relation à distance. Je peux rencontrer quelqu'un que je ne connaissais pas avant. Et je peux avoir une relation avec lui. Et ça peut marcher à cause de la bonne communication et de la connexion qui existe entre nous.
Vanessa Genoupati déconseille les relations à distance, même si elle reconnaît que des fois, elles marchent.
Les relations à distance, je ne suis pas vraiment pour. Il y a trop de perversité. Il y a des gens qui tomberaient dedans, quoi. Je ne sais pas vraiment conseiller. Par contre, il y a aussi des gens qui sont rencontrés sur les réseaux sociaux et ça aboutit au mariage et à une bonne relation.
Clément, artiste de la chanson, n'est pas contre les relations sur Internet, mais estime que la prudence doit être de mise.
Il y a beaucoup de ces trucs d'anal qui sont sur les réseaux Internet aujourd'hui. Donc, au moins avant de commencer une relation amoureuse en ligne, si tu peux connaître la personne avant de tisser une relation, soit tu es avec la personne avant qu'elle ne te quitte, donc tu peux commencer à distance, vous allez vous écrire et tout.
Pour préserver son cœur fragile, Eunice ne se voit pas dans une relation à distance.
Si je suis en relation avec quelqu'un ici, bien avant qu'il ne quitte le pays, ça sera un peu difficile pour moi de continuer la relation parce qu'arriver là-bas, est-ce qu'il me sera fidèle jusqu'à ce qu'on se retrouve finalement? Il peut aller là-bas rencontrer une autre personne qui va commencer par aimer et moi je serai la paix de mon temps à l'attendre. Il va se marier, avoir des enfants et puis après un jour il revient et il me dit que c'est plus possible qu'on soit ensemble et j'aurai le cœur brisé.
Face au confinement et les couvre-feux imposés par la COVID-19, l'amour est mis à rude épreuve, réduisant à néant une myriade de relations sociales. La crainte de la contamination a davantage renforcé les relations à distance. Les adeptes de l'amour aux yeux dans les yeux vont devoir patienter. Mais jusqu'à quand? Kaylesson, Lomé, VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Présentation Jean-Roger Billon, mise en onde Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Bon début de semaine à tous.